Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Ce matin, nous continuons cette série très importante concernant le salut. Nous en sommes à l'étude numéro 8. Qu'est-ce qui est essentiel pour le salut? C'est le titre. Oui, qu'est-ce qui est essentiel pour le salut? La foi seule, ou la foi plus le baptême par l'eau, la fréquentation de l'Église, les bonnes œuvres, et encore beaucoup d'autres choses. Ceci est d'une importance capitale, car la foi seule ne peut être la même que la foi avec des plus. Le pécheur qui a besoin du salut ne peut être sauvé par une foi qui à elle seule demeure la condition unique de la nouvelle naissance, en même temps qu'être sauvé de manière à obtenir la rémission de ses péchés et le don de la vie éternelle. Et à ce stade, se tromper, ça serait de se perdre à jamais, indifféremment de la sincérité dont on puisse témoigner. Alors voyons ça de plus près. On peut trouver dans le sixième chapitre de l'apôtre Jean un principe concernant ce que Dieu a fait. Je dis bien ce que Dieu a fait et ce que l'homme doit croire, tout simplement. La question posée à Jésus-Christ est de l'espèce qui a souvent été posée au cours des siècles. Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Saint Jean 6, verset 28. C'est ce que l'homme cherche naturellement, c'est de faire quelque chose. L'hypothèse logique est que les bonnes œuvres, les cérémonies religieuses, la fréquentation de l'Église ou les saintes résolutions préparent, c'est ce qu'on nous fait croire, tout cela nous prépare le chemin de l'acceptation de Dieu. Est-ce vraiment vrai? Pourtant, remarquez la réponse du Seigneur à cette question. Il est nécessaire d'être approuvé devant le Dieu Tout-Puissant. Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Essayez déjà de croire ça. Saint Jean, chapitre 6, verset 29. La réponse est assez simple, et cependant elle est pleine de profondeur et d'une grande vérité. Elle révèle le fait glorieux que si un pécheur doit être transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, l'opération s'accomplit uniquement comme une œuvre de la grâce de Dieu sans tenir compte des efforts méritoires de la part de l'égaré. Dieu donc accomplit et le pécheur reçoit la foi. Oui, croyez simplement en celui qu'il a envoyé, qui est librement dispensé, cette foi-là est librement dispensée en Jésus-Christ. Cependant, ceux qui ajoutent des étapes en vue du salut, ils prétendent que tout cela est beaucoup trop facile de simplement croire. Ils disent, ne savez-vous pas que les démons le croient aussi et ils tremblent? Jacques 2, verset 19. Et voilà, nous y sommes. Il y a deux sortes de croyants, écoutez bien. Les uns ne sont que des intellectuels qui donnent un assentiment mental avec leur cerveau, et les autres placent spontanément, de tout leur cœur, absolument leur confiance en Christ comme étant leur Seigneur et sauveur. Les démons ne croient certainement pas. Je crois, moi, que c'est impossible, puisque ce sont des démons. Ils ne croient certainement pas de la même manière essentielle dont le pécheur doit croire en le Seigneur Jésus-Christ, plaçant de son espérance et de sa confiance tout uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, la première sorte de croyance, elle n'est que de la reconnaissance. Et la seconde est une résignation absolue. Et c'est précisément pour cette raison qu'une distinction soigneuse et biblique doit être faite entre la confiance qui sauve et la confiance qui exige en plus toutes sortes d'œuvres et de rituels afin d'atteindre le but désiré, c'est-à-dire le salut véritable. Les croyants de Galate étaient justifiés simplement par leur foi, non pas par leurs œuvres. Galate chapitre 2, verset 16 et chapitre 3, verset 22. N'oubliez pas de noter ces citations afin de pouvoir vérifier dans vos Bibles. Ce sont donc, à mon avis, les faux frères. Et parmi ces faux frères, il peut y avoir les judaïseurs qui, eux, ont introduit les exigences supplémentaires pour conserver peut-être certains dogmes de la loi de manière à être sauvés. Ces faux prophètes qui troublaient les Galates se trompaient sur deux niveaux. D'abord, ils tentaient de ramener les croyants à l'époque de l'Église dans l'esclavage de la loi de Moïse. Ensuite, ils ajoutaient une nouvelle étape à la foi seule afin de participer au salut de Dieu. Le baptême par l'eau, ça c'est une bonne œuvre et bibliquement déterminée. C'est une obéissance. Une bonne œuvre, comme l'indique l'Écriture sainte, c'est simplement l'acte du saint en obéissance à la volonté révélée de Dieu. C'est de faire une chose que Dieu commande de faire à ceux qui sont déjà ses enfants. Les exigences ajoutées que les faux prophètes qui imposent aux pécheurs invités par Dieu à recevoir par la foi Jésus-Christ font partie d'un autre évangile, un salut par les œuvres, c'est ça qu'ils veulent, et reçoivent à n'en pas douter, je pense, la malédiction de Dieu. Notez Galates chapitre 1 verset 6 jusqu'au verset 10. Cela est également vrai pour tout autre prétendu évangile que l'on annonce aujourd'hui et qui augmente d'une étape la marche vers le salut par la foi seule. Concernant ceux qui épousent un faux évangile, l'apôtre Paul écrit qu'il se mutille donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Galates 5, verset 12. Voici une déclaration puissante. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle nous rappelle énergiquement l'importance de l'issue future et combien nous devons rester tenaces dans notre opposition à ceux qui dénaturent la pureté de l'évangile du Christ. Blessés par ces souillures diaboliques sur l'évangile, les Galates s'entendent carrément demander, quand ils ont été sauvés, à quel moment, en fait, ils ont reçu le Saint-Esprit et sont nés de nouveau par le pouvoir de Dieu. Voici seulement ce que je peux où je veux apprendre de vous, est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçue l'Esprit Saint, ou est-ce en écoutant avec foi ? Galates chapitre 3, verset 2. La réponse est évidente. Ils ont reçu le don du salut de Dieu dès qu'ils ont entendu la parole de l'Évangile. Je répète, dès qu'ils ont entendu la parole de l'Évangile et ils ont accepté son invitation. Ce n'est certes pas le résultat d'une œuvre quelconque. En plus, la foi et les œuvres sont toutes deux exclusives en ce qui concerne l'œuvre de Dieu dans la régénération des égarés. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Romains, chapitre 4, versets 4 et 5. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce. Romains 4, verset 16. Mais, ne perdez jamais de vue que la foi qui sauve, ainsi que l'illustre avec Abraham, le chapitre 4 de Romains, c'est une foi vivante, une foi vitale qui produit toujours des œuvres dans la vie du croyant. Et je répète, après la réalisation du salut, après, pas avant. Cela se voit avec Abraham dans le second chapitre de Jacques. Il a été déclaré ami de Dieu pour sa seule foi. Des années avant que sa justification ne soit démontrée par ses œuvres d'obéissance en offrant Isaac sur l'autel. Jacques chapitre 2 verset 14 à 26. Et notez encore Romains chapitre 4 et notez verset 1 jusqu'au verset 21. La soi-disant foi que certains disent avoir, mais qui ne produit pas de fruits, elle est morte en elle-même. Jacques chapitre 2 verset 17. Ce genre de foi ne sauvera certainement personne. Mais, mes chers auditeurs, la foi confiante et inconditionnelle qui a résulté en la justification d'Abraham devant Dieu est le même genre de foi que le pécheur doit posséder afin d'avoir la justice parfaite du Christ comptée pour lui dès qu'il croit. Romains 4, versets 22 à 25, et noté 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 15 à 17. Par sa croyance, le pécheur réconcilié retrouve l'approbation de Dieu et non pas à cause de ses bonnes œuvres ou de son soi-disant mérite quelconque, mais à cause de la justice parfaite du Christ qui lui est accordée. Cette foi qui aboutit au salut de la Sainte Bible est une confiance inconditionnelle et absolue en le Seigneur, qui est l'unique sauveur en lui seul et en personne d'autre. Dans la mesure où le salut dépend de la confiance en Christ plus quelques bonnes œuvres et plus quelques cérémonies religieuses, là, il ne s'agit plus du tout de salut par la grâce seule. Ne me faites pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Et je répète, il ne s'agit plus du salut par la grâce seule, indépendante des efforts humains. Celui qui ne peut faire la différence entre ces deux genres de foi est sans nul doute quelqu'un qui croit en quelque chose de plus. Il lui faut croire en beaucoup de choses en plus que le Christ, que en Jésus-Christ, pour réaliser son salut que Christ a promis, et il l'a promis à quiconque croira, pas à quiconque fera encore des tas de choses. L'exégèse de la Sainte Bible entière sur la foi qui sauve insiste sur l'absolue confiance en l'œuvre parfaite du Christ, indépendamment des œuvres ou du mérite supposé de l'homme. La foi qui sauve produit toujours des fruits ou de bonnes œuvres dans l'existence, mais toujours, écoutez bien, après. Nachher, not before, but after you are saved, après le miracle initial de la nouvelle naissance opérée par le pouvoir de Dieu. Donc ceux qui insistent sur croyez et ceci et cela pour être sauvés ne possèdent pas la foi qui sauve dont parle la Sainte Bible. Souvenez-vous également que le salut par la foi seul, en le sang, précieux sang versé du Christ, et en dehors des œuvres, ne résulte pas en un manque d'attention de la part du chrétien dans sa vie. La même grâce qui sauve, elle permet aussi aux croyants de marcher selon la Sainte Parole et discipline l'enfant désobéissant, Tite, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 15. Donc le fait de croire entraîne l'énorme responsabilité et les comptes devant Dieu. La plupart des textes bibliques totalement déformés pour servir la conclusion que le salut dépend d'un bout à l'autre de nombreuses bonnes œuvres, du racheté, font véritablement référence au châtiment promis par Dieu aux enfants rebelles. Le chrétien négligent ressentira une perte de bénédiction sur sa vie et sur sa récompense qui pourrait augmenter ses œuvres, passeront l'épreuve du feu. 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15. Donc au tribunal du Christ, devant lequel se présenteront tous les chrétiens, le salaire ou l'absence de salaire selon la vie et le service chrétien, certains seront sauvés un peu comme par le feu, au travers le feu. Sauvés, oui, mais sans récompense pour le service fidèle consécutif à l'expérience de la foi qui sauve, qui seule sauve. Chers amis, quelle est la juste place du baptême par l'eau? Satan est magistral dans ses efforts pour embrouiller l'issue et rendre floue la démarcation distincte entre le salut par la foi seule et le salut dans lequel les œuvres, hein, sont une soi-disant condition absolument nécessaire. Par exemple, ceux qui souscrivent à la régénération par l'eau sont prompts à souligner que l'existence de nombreuses dénominations différentes et indépendantes justifie la conviction qu'il existe plusieurs manières pour parvenir au salut. Ce n'est tout simplement pas le cas. Du point de vue historique, les dénominations protestantes ont un riche héritage de fidélité à la Sainte Bible, en raison de leur conception de la justification par la foi seule. Les différences d'un groupe à l'autre consistent principalement en divergences politiques dans les églises, c'est-à-dire l'administration dirigeante de l'assemblée locale ou des assemblées de croyants, et non pas en divergence dans les doctrines fondamentales, par exemple ce qui constitue l'œuvre de Dieu dans la régénération du pécheur. Le baptême par l'eau est considéré par des chrétiens véritables comme un témoignage, une obéissance extérieure de la réalité intérieure d'être déjà né de nouveau par le pouvoir de Dieu. Dès l'instant où le pécheur croit que le Christ est son sauveur, il est baptisé par l'Esprit de Dieu dans le corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13. Il n'y a pas de salut pour quelqu'un qui n'est pas en Christ. La régénération spirituelle a lieu lorsque le pécheur reçoit le Christ dans et par la foi simplement. Saint Jean chapitre 1 verset 12 et chapitre 5 verset 24. Tous ceux qui sont sauvés reçoivent ce baptême administré par Dieu, non pas par l'homme. D'autre part, le baptême par l'eau est proprement interprété comme étant une ordination de l'Église administrée uniquement à ceux qui sont quoi ? Qui sont déjà sauvés. Le baptême par immersion symbolise ce qui a déjà été accompli par Dieu. Les ordinations, le baptême et le souper du Seigneur et les bonnes œuvres obéissent à la volonté de Dieu telle qu'elle est annoncée dans la Sainte Parole de Dieu et sont postérieures au fait de la régénération et au résultat de la foi qui sauve. Elles ne sont pas un moyen pour obtenir la grâce qui sauve. Le salut ne peut être conféré par aucune église, car voyez-vous, l'église n'est qu'un rassemblement de croyants nés de nouveau, bien que pas toujours, et qui dispose déjà du salut en le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un authentiquement né de nouveau par l'Esprit Saint de Dieu voudra honorer son Seigneur puisqu'il possède une nouvelle vie en Christ. Il devra chercher et s'assimiler à une église locale basée sur la fidélité de la Sainte Bible. Là, il pourra grandir, se nourrir des attentions et des enseignements pastoraux, les enseignements que il ou elle vont recevoir de leur pasteur et de recevoir l'édification et l'encouragement d'autres qui auront la même précieuse foi. Éphésiens chapitre 4 verset 11 à 16. Et dans le contexte de cette église locale, le croyant aura donc l'opportunité de recevoir le baptême biblique. 1 Corinthiens 1, verset 13 à 16. Et dans ce texte, l'apôtre Paul n'a pas baptisé tous ceux de l'église de Corinthe. D'autres aussi l'ont certainement été. Les défauts des Corinthiens ne démentent pas le fait qu'ils étaient vraiment baptisés. L'office commémoratif du souper du Seigneur est également un souvenir constant du symbole du corps du Christ et de son sang répandu, et cela nous rappelle que cet office doit être pratiqué jusqu'à sa venue. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, jusqu'au verset 32. Oui, le baptême par l'eau occupe sa propre place qui est importante, d'accord, mais seulement pour celui qui est déjà sauvé, pas pour celui qui n'est pas encore né de nouveau. Ce dernier doit croire à l'Évangile et recevoir le salut de Dieu comme un don gratuit. Le baptême sous n'importe quelle forme ne peut sauver absolument personne. Souvenez-vous toujours, quand il se présente une occasion de partager le seul véritable évangile avec ceux qui croient en leur baptême pour le salut, faites-le. Ils ont besoin d'être sauvés et cela ne se produira pas en argumentant ou en débattant de la complexité des doctrines ou des bizarreries de la pratique. Ils ont besoin qu'on leur annonce le salut parfait offert par la personne infinie et l'œuvre idéale de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu est capable de prendre l'évangile pur de la grâce de Dieu et de faire que l'auditeur, l'auditrice, dans le besoin, comprenne ce que signifie réellement croire uniquement en le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de l'âme. Seul l'Esprit de Dieu peut saisir la Sainte Parole et de permettre le baptême régénérateur et montrer à quel point est dérisoire le baptême rituel par lequel le communiant est censé être introduit dans, soi-disant, la seule véritable Église par rapport à l'opération de Dieu de la nouvelle naissance dès l'instant où le pécheur se met à croire. Le rôle de médiateur d'un ministre baptisant quelqu'un dans le royaume est une triste pantomime, pour le moins qu'on puisse le dire. Voyez-vous, l'argumentation ne convaincra jamais quelqu'un qui a des idées dissidentes, autant que la réalité bénie et la certitude qui accompagne la foi qui sauve. Dieu doit les lui révéler alors que l'Évangile est annoncé dans sa plénitude et que la Sainte Parole de Dieu est clairement enseignée. On doit non seulement proclamer pleinement l'Évangile à ceux qui s'opposent à la doctrine de base de la justification par la foi seule, mais on doit adresser des paroles fermes d'exhortation et de mise en garde à ceux qui connaissent prétendument le chemin de la vérité, mais qui compromettent cette dernière. Le mouvement œcuménique libéral a apporté des compromissions théologiques incroyablement dangereuses à ce sujet, et notre obligation est de combattre cette apostasie. Par exemple, un document révélateur du Conseil mondial des Églises intitulé « Baptême, Eucharistie et ministère » a lâchement capitulé devant la position du baptême régénérateur, bien que la plupart des églises membres du WCC aient soutenu au cours de l'histoire le salut par la grâce et par la foi seule en Christ. Un personnage représentatif cite, d'après ses feuilles, l'étude doctrinale. Par le baptême, les chrétiens sont amenés à entrer en communion avec le Christ, avec les autres et avec l'Église de tous les temps et de tous les pays. On peut faire croire tout cela, c'est très facile. Notre baptême courant, qui nous unit dans la foi avec le Christ, devient ainsi un lien fondamental pour l'unité. La motivation du désir d'amener l'Église catholique romaine dans la sphère œcuménique de communauté organisatrice constitue un encouragement manifeste pour la préparation d'un document tel que celui-ci. On devrait aussi noter qu'ajouter aux membres de WCC tels les églises orthodoxes de l'Est qui ont déjà souscrit à la régénération baptismale, la commission Faith and Order qui a organisé cette étude se compose de représentants tels que les adventistes du septième jour et de l'Église catholique romaine, que l'on ne s'étonne pas du tout du résultat. Mais étaient également présents à cette commission WCC Faith and Order des baptistes du Sud et des baptistes américains qui auraient dû mieux savoir, pour ne pas dire mieux faire. La position historique des baptistes a totalement été ignorée par ceux qui auraient dû mettre en garde contre les ramifications théologiques graves de cette union avec ceux qui prêchent un autre évangile. Le mouvement œcuménique est un fléau latent pour la vérité biblique et aucun croyant fidèle à la Sainte Bible ne devrait en aucun cas s'en mêler. C'est la triste conséquence d'une communauté compromise, les convictions inaltérables de l'Église, de l'Esprit Saint, deviennent donc inexistantes. Je répète cette phrase pour que ce soit bien compris. C'est la triste conséquence d'une communauté comprise, les convictions inaltérables de l'Esprit Saint deviennent ainsi inexistante. Un petit coup d'œil, chers amis, au texte de la Sainte Bible où le baptême par l'eau est mentionné révèle que la foi seule, sans lui ajouter le baptême, assure le pardon des péchés. La promesse du Saint-Esprit vivant est le don de la vie éternelle. On trouve dans le chapitre 10 des Actes un texte essentiel qui raconte un exemple direct de l'opération de Dieu dans la régénération du pécheur. Il s'agit du récit de la conversion de la maison de Corneille. Alors que l'apôtre Paul leur annonçait l'évangile pur de Dieu, tout simple de Dieu, de sa grâce qui sauve en Christ, il n'était pas possible qu'ils fussent déjà croyants, non, puisqu'ils n'avaient jamais entendu la sainte parole de l'Évangile qui seul peut sauver. Actes, chapitre 10, verset 6 et le verset 33, et le chapitre 11 des Actes des Apôtres, chapitre 14 à 18, ainsi que le chapitre 15, verset 7. J'espère ne pas me tromper. Corneille était donc religieux, d'accord, mais on peut être religieux et un peu égaré. Être religieux ne veut pas dire être sauvé, c'est pas automatique. C'était un prosélyte dévoué au judaïsme, mais il avait besoin d'entendre la bonne nouvelle qui, la juste demande de la loi, avait été réunie en Christ et que son salut était maintenant accordé aux païens ainsi qu'aux juifs, et Corneille devait entendre parler du Christ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34 jusqu'au verset 43, Dieu donne les détails que ces païens dans le besoin doivent entendre et doivent croire de façon à être sauvé. L'apôtre Pierre prêche le Christ crucifié et ressuscité qui sera juge ou sauveur pour le pécheur. C'est alors que l'apôtre Pierre énonce la seule condition pour le don gracieux du salut. Tous les prophètes rendent de lui, de notre Seigneur Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son saint nom le pardon des péchés. Comme l'apôtre Pierre annonçait encore ces mots, l'évangile concernant la personne parfaite et l'œuvre parfaite du Christ, le Saint-Esprit, descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Actes chapitre 10, verset 44. Ils ont donc tous cru et ils ont été sauvés sur le champ. Allez jusqu'à Actes chapitre 15 et lisez avec attention les versets du verset 6 jusqu'au verset 11 de Actes 15. Et là, nous y trouvons le même événement du point de vue de Dieu et nous y laissons donc, surtout, vous allez pouvoir lire là le commentaire, un véritable commentaire sur ce qui s'est passé dans le cœur de tous ceux qui ont simplement cru l'Évangile et par là qui ont simplement reçu le pardon des péchés et le don de l'Esprit Saint. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Actes 15, versets 8 et 9. Donc l'apôtre Pierre a prêché, les païens ont simplement écouté, et ils ont en plus simplement cru. Cru avec un cœur sincère, ouvert et pas trop compliqué. Notez Saint Jean, chapitre 5, verset 24, et Galates, chapitre 3, verset 2. Et Dieu a donné, gratuitement, sans faire ci et sans faire ça, le salut. Revenez maintenant à Actes, chapitre 10, verset 45, jusqu'au verset 48. C'est donc après, nachher, not before, but after. C'est après avoir reçu le don du Saint-Esprit qu'ils ont été baptisés. Il n'y a aucun moyen de prétendre que leurs péchés ont été lavés dans les eaux baptismales et au moment où ils ont été ensevelis dans l'eau, tous les péchés se seraient donc évanouis. Tomber au fond de l'eau, au fond de l'océan, pourquoi pas, tout simplement, puisqu'ils étaient, je répète, ils étaient déjà en Christ. Notez Romains chapitre 8, verset 9. Voyez-vous, le parler en langue était un signe pour les Juifs croyants que ces païens possédaient dès lors ce que eux-mêmes avaient reçu au jour de la Pentecôte et se trouvaient donc dans la nouvelle création de Dieu, l'Église. Le baptême par l'eau était un témoignage extérieur de leur identification avec le Christ et avec d'autres personnes qui avaient la même précieuse foi. Question, le baptême par l'eau représente-t-il une étape de plus pour obtenir le salut? Absolument pas. Ce texte qui expose si clairement la seule base de la régénération déformerait la Sainte Bible si le baptême par l'eau était essentiel au salut. Mais louons le Seigneur, tel n'est pas le cas. Et tous ceux qui ont cru au salut de leur âme peuvent se réjouir avec l'apôtre Pierre. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Actes chapitre 15, verset 11. Bien sûr, concernant le baptême du Saint-Esprit, c'est un peu plus complexe. Et là, les avis divergent. Mais vous pouvez écouter la série sur le baptême du Saint-Esprit sur www.bibleexplique.ch. Mais on ne devrait pas se faire la guerre entre les uns et les autres à cause d'une question de parler en langue. J'ai connu des serviteurs de Dieu, voire même des docteurs en théologie qui ont écrit des commentaires fabuleux, qui n'ont jamais parlé en langue. Et j'en ai connu d'autres qui ont parlé en langue, qui ont guéri des malades et qui ont eu des résultats merveilleux au milieu des chrétiens. Je pense que tout ça est délicat et se faire la guerre, c'est pas la bonne méthode. Personnellement, je pense que nous ne verrons pas au ciel seulement ceux qui parlent en langue, qui seront assis à gauche et à droite de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Et ceux qui ne parlent pas en langue seront peut-être dans des troisièmes classes. Faisons attention à ce genre de choses. Aimons-nous, si nous sommes sauvés en Jésus-Christ, si nous avons accepté son salut, et que nous sommes sincères, pas dans l'erreur, mais en ayant reçu vraiment ce salut gratuit, sans ceci et sans cela, aimons-nous les uns les autres et faisons tout ce que nous pouvons pour que d'autres âmes puissent être sauvées. Ce sera beaucoup plus important que certaines choses que nous pensons être essentielles pour pouvoir entrer dans le ciel. Pour terminer, essayons de comprendre les textes souvent cités pour encourager certaines erreurs. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, la mission est d'abord d'enseigner à toutes les nations. Le mot traduit par « enseigner » dans sa signification principale est nettement distinct du sens de faire des disciples. Ce n'est pas la même chose. Comment peut-on devenir un disciple? C'est en écoutant l'évangile de Dieu et en recevant ce message dans la foi. Saint Jean, chapitre 1, verset 12. Les nouveaux disciples sont ensuite baptisés après le salut et enseignés dans la vérité. La même chose est vraie pour Saint Marc. Dans cette partie, au chapitre 16 de l'évangile de Marc, versets 15 et 16. Une fois de plus, le fait de croire suscite un disciple, et ce disciple est baptisé ensuite. C'est celui qui ne croit pas, qui n'est donc pas encore un disciple, qui sera condamné. Cela, ou celui plutôt, qui croit et qui est baptisé. Voici donc la succession normale. Étudier la doctrine de la régénération dans son contexte biblique révèle clairement que le baptême se fait après avoir cru au salut. Nachher, not before, after, après. Actes chapitre 2, verset 38 est un autre texte qui est souvent déformé pour réfuter l'enseignement biblique sur le salut par la foi seule. Mais à nouveau, nous remarquons que la repentance précède le baptême. La repentance, comme elle est utilisée à l'égard du salut, est un magnifique et descriptif complément pour le salut du pécheur. Ici, la repentance est ce changement de l'esprit par lequel l'individu ne croit plus à autre chose que au salut complet et généreux, dispensé en Christ seul. Cette croyance n'est pas juste une conviction intellectuelle, mais une foi du cœur qui fait se détourner de sa confiance en soi, en la religion ou en autre chose, vers Jésus-Christ, qui est le seul à pouvoir sauver complètement. C'est l'œuvre intime du Saint-Esprit. Saint Jean, chapitre 6, verset 44, et le chapitre 16, verset 7 à 11, par lequel le pécheur est convaincu d'agir avec ses capacités propres afin de se sauver lui-même et de la générosité parfaite du Sauveur. Sa foi en autre chose, qui était une erreur, se transforme maintenant en confiance absolue et inconditionnelle, et il croit de tout son cœur à l'œuvre parfaite du Christ. On doit aussi noter que être baptisé pour la rémission des péchés ne se fait pas de manière à obtenir le pardon, mais plutôt d'être baptisé par rapport à la rémission des péchés. Le baptême est toujours pratiqué pour le croyant régénéré et qui a été pardonné. On permet le baptême par l'eau à l'eunuque éthiopien seulement après qu'il a donné une réponse appropriée à la question de l'évangéliste. Si tu crois de tout ton cœur, tu pourras. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, car la charrue toute seule ne vous conduira, je crois, nulle part. Ananias a-t-il demandé à Saul, connu plus tard sous le nom de Paul, a-t-il demandé des informations essentielles concernant l'évangile pour compléter de ce qu'il avait reçu auparavant sur la route de Damas? Ananias a-t-il demandé à l'apôtre Paul de le baptiser et de le laver ou de lui laver ses péchés? Actes chapitre 22, versets 12 à 16. Non et non. Comme mentionné, le baptême chrétien était administré à ceux qui avaient déjà reçu la bonne nouvelle du salut par la foi en le Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Le rite postérieur du baptême, par conséquent, était le témoignage de ce fait. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Lisez attentivement ce que l'apôtre a réellement dit de sa rencontre avec le Christ glorifié en recevant la révélation directe de l'Évangile, Galates 1, versets 1, 11 et 12, ainsi que Actes chapitre 26, versets 13 à 18. Assurément, il ne l'a pas reçu de l'homme. Cela élimine ce que Ananias avait à ajouter, et il déclare que l'Évangile est une coquille de noix quand il a témoigné devant Agrippa. Le message que Jésus-Christ lui donna ce jour-là, c'est-à-dire sur la route, c'était simplement l'évangile entier de la grâce qui sauve et pas autre chose. C'était la bonne nouvelle qui permet à quiconque d'entendre et qui croit, de recevoir le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Actes 16, verset 18. L'évangile n'exige donc pas le baptême par l'eau comme étant la condition essentielle pour la nouvelle naissance. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, est un autre verset souvent utilisé pour la justification de la régénération baptismale. Mais remarquez bien le mot « véritable » dans son contexte. Voyez-vous, Noé et sa famille, ils n'ont pas été sauvés par l'eau, mais ils ont été sauvés de l'eau du jugement, c'est pas pareil. Leur salut vient de ce qu'ils étaient à l'intérieur de l'arche. L'arche étant une figure du type du salut du croyant qui échappe au jugement étant en Christ. Dans la première épître de Pierre, au verset 21, il est dit « C'est une figure du baptême qui vous sauve. » C'est une figure du baptême. Le baptême est utilisé ici pour illustrer une façon de parler de l'opération de Dieu qui se produit intérieurement chez le croyant. La figure baptême évoque notre identification avec le Christ qui nous sauve. Il était l'arche du salut de Noé. Le salut que le pécheur se voit offrir vient de sa grâce qui sauve. Le reste du verset confirme cette vérité. Il n'enlève pas les corruptions de la chair par la cérémonie de purification, référence au rituel de l'Ancien Testament, mais il apporte la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. C'est la foi qui vient du cœur dans le sang répandu de l'agneau et dans sa glorieuse résurrection physique qui justifie le pécheur devant Dieu, Romains 10, verset 9, et Hébreux, chapitre 9, verset 14. Un autre texte consciencieusement déformé pour conclure à la régénération baptismale, c'est Saint Jean, chapitre 3, verset 1 à 8. Plutôt qu'enseigner la nécessité du baptême, ce texte affirme véritablement l'opération de Dieu par laquelle le Saint-Esprit œuvre de concert avec la sainte parole de l'Évangile pour produire instantanément la régénération du pécheur. Les deux choses essentielles pour naître de nouveau sont l'eau et l'esprit. Jean chapitre 3 verset 5. L'opération du Saint-Esprit est d'évidence essentielle. Essentielle dans la nouvelle naissance spirituelle du pécheur croyant, évidemment. Et l'eau. Est-ce pour le baptême ? Non. Définitivement, l'eau est typique de l'agent purificateur de la Sainte Parole. Éphésiens chapitre 5, verset 26. L'Évangile tel qu'il est présenté dans la Sainte Parole de Dieu est intégralement dépendant de l'œuvre du Saint-Esprit pour la régénération dans le cœur de celui qui croit. La nouvelle naissance, elle témoigne également du fait qu'il y a eu à l'origine naissance humaine et naturelle, et de nombreuses personnes croient que l'eau dans ce texte précis en réfère à la naissance naturelle. Ce qui est né de la chair est chair. Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? D'autre part, l'Esprit Saint se rapporte à la nouvelle naissance. Et dans les deux cas, l'eau ne peut donc pas être considérée comme un baptême, ni donc être nécessaire dans l'œuvre divine et miraculeuse de régénération. C'est Dieu qui administre la nouvelle naissance par la prédication de l'Évangile. Le bain de régénération et le renouveau du Saint-Esprit dans Tite, chapitre 3, verset 5, parle de la double fonction du Saint-Esprit de Dieu utilisant le message de l'Évangile contenu dans la Sainte Parole. C'est amener un pécheur perdu, à un stade où il comprendra son besoin désespéré de pécheur et de lui faire accepter ensuite dans la foi le glorieux salut de Dieu en Christ qui répondra à ses besoins. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu le Père, il a la vie éternelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean, chapitre 5, verset 24. Et là encore, nous voyons Dieu effectuer le lavage pendant la régénération exactement de la manière décrite dans Actes, chapitre 15, verset 7 à 9, et comme écrit précédemment, où Dieu sauve les païens convertis, purifiant leur cœur par la foi et pas le baptême. C'est la foi qui est le moyen de Dieu pour laver de tous les péchés, et ce n'est pas l'eau. Le rituel du baptême ne peut par conséquence ou par quelques efforts d'imagination être l'équivalent du mot « eau » employé pour lui-même dans le texte ou dans les textes de la Sainte Bible en relation avec la nouvelle naissance. Nulle part on ne trouve une relation directe qui réunisse ces deux termes « eau » et « baptême ». Par exemple, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 26, et dans la première épître de Pétre, chapitre 1, verset 23, on fait un rapprochement apparent entre l'eau et la sanctification, ou purification, propriété de la Sainte Parole de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, verset 18, nous avons aussi une identification directe avec le rôle de la Sainte Parole dans le miracle de la nouvelle naissance. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Le pouvoir de Dieu est manifeste quand un pécheur perdu croit simplement en Jésus-Christ comme en son sauveur personnel, et Dieu accomplit une régénération miraculeuse en dehors de toute cérémonie. Saint Jean, chapitre 1, verset 12. Pour terminer, quelle devrait être aujourd'hui la réponse des croyants alors que la régénération baptismale est professée ou tolérée par tant de groupes religieux différents? L'unique réponse à ceux qui persistent dans cette dangereuse erreur sera de leur présenter le pur évangile de Dieu et de sa grâce qui sauve tout simplement. Puis prier que le Saint-Esprit œuvre dans leur cœur et dans leur esprit afin qu'ils comprennent ce que signifie croire uniquement, sans tous les à côté, sans faire ceci, sans faire cela, uniquement en le Seigneur Jésus et être sauvé. Faire ceci et cela, ça viendra après. C'est maintenant que je fais certaines choses, mais que je ne pouvais pas faire avant. Actes chapitre 16, verset 31, et Hébreux chapitre 7, verset 25. Prêchez cet évangile-là et écartez-vous simplement de tous ceux qui en proclament un autre. Mais si nous-mêmes, ou si même un ange du ciel vous annoncez un évangile différent, jamais un ange fera cela, différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, verset 8. Nous allons terminer, si vous le voulez bien, par la prière, tout simplement. Gloire à toi, Dieu notre Père, la miséricorde est ton nom. Oui, la miséricorde est un attribut de ton trône. À toi, ô Dieu, appartiennent la justice et la grâce. Père éternel, tu as tellement aimé ce monde, voué à sa perte, que tu as donné ton Fils bien-aimé pour porter notre iniquité et pour nous sauver pour autant que nous voulons accepter ton salut. Oui, Seigneur, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes remplis de joie de savoir que tu es l'étoile brillante du matin, le soleil de justice et la vérité dans ta gloire rédemptrice, et que tu es venu pour nous racheter. Alléluia. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à toutes ces études, et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite car il y en a encore beaucoup à dire concernant le salut, qui tout de même est le plus important, parce que savoir beaucoup de choses, c'est pas mal, mais